Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Eiffel Radio. Vous écoutez Sport 360, l'émission qui fait le tour de toute l'actu sportive, résultats, débats, analyse des sports sous tous ses angles. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Enzo. Bonjour Enzo.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, au sommaire de cette émission, on va commencer avec toi et bien évidemment parler de la NBA. Je vous parlerai ensuite des dernières actualités du tennis et du foot avant de partir sur l'actualité des sports dont on n'aura pas forcément encore parlé. On parlera de vélo, de Formule 1 aussi un petit peu. Nous partirons ensuite à la découverte d'un sport encore méconnu du public français avant de finir comme chaque semaine avec l'agenda sportif du week-end prochain. Eh bien, je te laisse commencer, Enzo.
Et vous l'avez vu aux températures, mais c'est aussi le cas en NBA. On arrive au moment le plus chaud de l'année avec les finales de conférence. Et autant le dire que depuis le 20 mai, l'ambiance n'est pas du tout la même à l'Est et à l'Ouest. D'un côté, on a une exécution clinique et de l'autre, une énorme bataille de tranchées. Ce petit débrief, c'est un débrief complet de cette folle semaine de playoffs NBA à l'Est. Les Knicks roulent sur Cleveland. New York mène 4-0 malgré un The Beer qui nous a dit qu'il pour lui était, il avait quand même la meilleure équipe. Il a quand même pris 4-0. C'est ce qu'on appelle une correction en règle. Les Knicks n'ont laissé absolument aucun espoir à Cleveland, pliant l'affaire en un temps record pour s'offrir un ticket vers les finales NBA. Le deuxième match donc, qui s'est déroulé le 21, s'est fini à 109-93. À New York qui ont étouffé d'entrée les Cavs. Malgré les 26 points de Donovan Mitchell, Cleveland bafouille son basket face à la défense de fer des Knicks. Le troisième match, 108-121. Les Knicks ne trempent pas et enfoncent le clou grâce à une attaque ultra fluide qui fait voler en éclats le système défensif des locaux. Et pour le match 4, c'est 130-93. L'humiliation finale, New York réalise un véritable festival offensif plus 37 points pour sweeper, balayer 4-0 Cleveland sur son propre parquet, porté par un collectif en mission et une intensité physique étouffante. Les Knicks terminent les finales de l'Est invaincus et sauvent de précieux jours de repos en attendant de connaître leur futur adversaire. Et c'était pas arrivé depuis 20 ans, je crois, si je me trompe pas, ou 27 ans, que les Knicks atteignent les finales NBA. À l'ouest, OKC et San Antonio se rendent coup pour coup égalité à 2-2 aujourd'hui. Si l'Est a plié l'affaire rapidement, l'Ouest nous offre une série de suspense que tout le monde attendait entre les leaders de la saison régulière, l'Oklahoma City Thunder et les Spurs de San Antonio. Après le braquage initial des Spurs sur le match 1, la réponse du Thunder ne s'est pas fait attendre. Match 2, OKC 122-113. Dos au mur à la maison, le Thunder hausse le ton physiquement. OKC égalise la série en contrôlant la fin de match face aux assauts texans. Match 3, 108-123. Donc, premier tournant, le Thunder se déplace à San Antonio et signe une victoire autoritaire à l'extérieur pour reprendre l'avantage du terrain. Ces deux matchs qui ont été très très critiqués parce que beaucoup de fautes. On connaît OKC et surtout Shai Gilgeous-Alexander qui en joue beaucoup de ses fautes, mais là c'est toute l'équipe. On a l'impression qu'ils ont l'arbitrage avec eux, que ce soit au niveau des fautes non sifflées faites sur Wemby contre tous les lancers francs qu'ils ont obtenus sur des fautes où ils n'ont même pas été ne serait-ce qu'éraflés par un joueur. Ça commence à ressembler un peu à du théâtre et beaucoup de fans, même d'OKC, commencent un peu à retourner leur veste. Et pour ce match 4, c'est les Spurs qui ont repris, qui ont pris la victoire 103-82. La réaction d'orgueil des Spurs portée par un public en transe. Les Spurs infligent une énorme correction défensive au Thunder, limitant OKC à seulement 82 petits points. La série est totalement relancée. Et pendant que New York se repose tranquillement à la maison, les yeux du monde entier se tournent vers le match 5 de la finale de l'Ouest qui se jouera cette nuit, le 23 mai, au Paycon Center à Oklahoma City. Le vainqueur de ce match prendra une option cruciale et mènera 3 à 2 la série à 80% de chances de qualification pour les finales NBA.
I'm on the grind, let my paper stack when I'm filthy. It's funny how niggas get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault, you done fucked up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Nigga, when we rollin', 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 your block down. Quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rollin', rollin', rollin'.
Nigga, use a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga, use a window shopper. In the jewelry store, lookin' at shit you can't buy. Nigga, use a window shopper. In the dealership, tryna get a test drive. Nigga, use a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by.
Niggas love me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. And when it comes to bad bitches, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know a nigga wanna see how Cali girls freak off. After that 5 hour.
Et pour cette deuxième séquence, on va prendre directement la direction de la Porte d'Auteuil, puisque, vous le savez, nous sommes fin mai et la terre battue parisienne tremble déjà sous les coups de raquette. Roland-Garros 2026 qui a ouvert ses portes ce dimanche, et il s'en est passé énormément de choses en très peu de temps. Mais avant de parler bien sûr des balles jaunes et des résultats, il faut qu'on revienne aussi sur la nouvelle qui a secoué quand même le tournoi avant le premier coup de raquette, le forfait de Carlos Alcaraz, l'Espagnol qui nous a fait pourtant vibrer après sa finale à Monte Carlo le mois dernier. Il a dû donc jeter l'éponge, le tenant du titre qui était remonté l'année dernière contre Sinner et qui avait remporté ce tournoi pour la deuxième fois, il me semble. Sans lui, le tableau il est quand même orphelin d'un de ses plus grands favoris quand même avec Sinner. La conséquence directe, bien évidemment, qui laisse un très très gros boulevard à l'Italien, qui l'avait d'ailleurs battu donc à Monaco, et Sinner qui aborde donc Roland-Garros avec cette étiquette déjà de numéro 1 mondial et donc de tête de série numéro 1 mondial, grand favori. Il est désormais l'homme à abattre, mais attention, puisque le boss historique du circuit a de la résistance à revendre. Et quand on parle de boss, impossible de ne pas parler de Novak Djokovic, le Serbe tête de série numéro 3 cette année, qui a fait son entrée en lice dimanche. Et pour un premier tour, d'ailleurs, il a fait la première night session du tournoi. C'était pas un très gros cadeau puisqu'il affrontait le Français Giovanni Mpetshipirikar. On le sait, Giovanni a un service monstrueux qui a d'ailleurs valu le premier set de perdu par Djokovic. Mais poussé par un court Philippe Châtrier en ébullition, les Français ils sont exceptionnels. Donc il a pris le premier set 7-5. Mais après, Djokovic, il s'est réglé, il a scanné le jeu, il s'est recalibré, et puis il s'est donc imposé en 4 manches, donc 5-7, 7-5, 6-1, 6-4, et donc avec ce seul match, il a encore battu un nouveau record stratosphérique. C'est sa 82e participation à un tournoi du Grand Chelem dans le tableau principal, et il dépasse donc officiellement Roger Federer et ses 81 participations. La longévité de Djoko qui défie vraiment tout simplement la logique. On l'a vu hier très frais encore à la fin du match, à danser, partir en conférence le sourire aux lèvres, malgré la difficulté du premier set. Côté français, ce début de quinzaine souffle le chaud et aussi le très froid. Hier soir, la fameuse session de nuit qui nous a offert un match d'anthologie, un duel... un vrai passage de flambeau aussi entre l'expérience de Gaël Monfils, bien évidemment, et la malice d'Hugo Gaston. Gaston qui avait mené 2-7 à 0 la Monf, avant que celui-ci ne se réveille et recolle à deux manches partout. dans une ambiance un peu Coupe Davis. Mais malheureusement, dans le cinquième set, mon fils il s'est complètement, mais complètement effondré physiquement. Et donc, sur le score final, il a perdu donc, sur le score final de 6-2, 6-2, 3-6, 2-6 et un cinglant 6-0 pour terminer ce cinquième set. Hugo Gaston qui file donc au deuxième tour après un gros combat de près de 4 heures. Dans l'autre derby de ce lundi, Hugo Humbert, le patron entre guillemets actuel du tennis tricolore, a écarté avec beaucoup de sérieux le vétéran Adrian Manarino en 3 sets très secs. En revanche, c'est déjà terminé pour Benjamin Bonzi. Pas de miracle face à Alexander Zverev. On s'y attendait, la tête de série numéro 2 qui a expédié l'affaire en 3 manches. La vraie sensation, le tremblement de terre de ce premier tour, il nous vient quand même des États-Unis avec l'Américain Taylor Fritz, tête de série donc numéro 7, qui s'est fait sortir dès son entrée en lice d'ailleurs. Il est tombé dans le piège tendu par un jeune compatriote de 21 ans, Nishesh Basavaredi. Vous ne le connaissez sûrement pas, et bien c'est normal parce qu'il est 156e mondial. Et le jeune prodige qui a donc arraché cette victoire au bout de 4 sets très accrochés. Et c'est vraiment pour ce genre de scénario qu'on aime le tennis, qu'on aime la terre battue parisienne qui ne pardonne aucun relâchement, même quand on est dans le top 10 mondial. On a aussi notre Français Moïse Kouamé qui a joué aujourd'hui et qui a sorti Marine Klix 7-6, 6-2, 6-1. En très gros patron pour son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Il a eu beaucoup de difficultés au premier set, un set très accroché qu'il a remporté au tie-break, mais il a su se relever et franchement trouver des solutions à tous les problèmes. Le match il vient de se terminer là, à l'instant quand on enregistre l'émission ce 26 mai. Et franchement, c'était exceptionnel de le voir jouer. Chez les femmes, le début de tournoi, il est un peu plus studieux. Les favorites, elles n'ont pas trop tremblé. On a la Russe Mira Andriva, tête de série numéro 8, qui a vraiment étouffé la Française Fiona Ferro en 2-7. Andriva, donc, il faut le souligner, c'est la joueuse qui a gagné le plus de matchs sur terre battue cette saison, avec 16 victoires. On gardera aussi un œil sur l'Américaine Emma Navarro, qui vient tout juste de remporter le tournoi de Strasbourg ce week-end et qui débarque à Paris gonflé à bloc avec plein de confiance. Et puis pour terminer, je vais vous rappeler un peu qui il faut surveiller. On a bien évidemment donc, en ce moment sur le court central Arina Sabalenka qui fait son entrée face à l'Espagnole Jessica Buzaz Manero. On attend aussi avec impatience le premier match de la tenante du titre Coco Gauff qui aura le droit à un duel avec sa compatriote Taylor Townsend. Chez les hommes, c'est aussi le grand jour pour Daniil Medvedev face à l'Australien Adam Walton. Mais tous les regards, bien sûr, qui regarderont les premiers pas de Sinner pour voir s'il s'assume sans Alcaraz, son nouveau statut d'hyper favori du tournoi. Donc voilà, la quinzaine qui ne fait que commencer. Mais on a déjà notre dose d'émotions fortes et on se retrouvera prochainement pour parler de tout ça. Si vous avez cligné des yeux aussi ce week-end, vous avez sûrement raté la fin d'une saison complètement folle en foot. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur le verdict de la Ligue 1, faire un détour par les premiers gros bruits du couloir du Mercato. Et bien sûr, on va se projeter sur l'événement de cette fin du mois, la grande finale de la Ligue des Champions. Donc on commence par le championnat de France, clap de fin sur la saison de la Ligue 1. Le dernier multiplex qui nous a offert son lot de larmes et de célébrations en haut du tableau. Pas de surprise pour le titre, le PSG qui soulève donc un nouveau trophée avec une saison gérée entre guillemets en patron. La vraie bataille, elle était quand même juste derrière pour les places européennes, avec notamment Monaco, Marseille qui ont validé leur ticket direct pour la Ligue des Champions l'année prochaine après un chassé-croisé assez impressionnant. Les Marseillais portés par un Vélodrome en fusion qui ont arraché leur qualification dans le dernier quart d'heure de leur match ultime. Du côté de la relégation, c'est la douche froide pour les mal classés, la descente en Ligue 2 malheureusement, qui est désormais officielle pour les deux lanternes rouges qui n'ont pas réussi l'opération maintien malgré cette lutte acharnée. Le barrage qui s'annonce d'ailleurs bouillant ce week-end pour le 16e de Ligue 1 qui jouera sa survie face au vainqueur des play-offs de Ligue 2. Donc si vous aimez les matchs un peu haute tension, parce que là vraiment c'est le classement qui va... la victoire ou non qui va déterminer l'année prochaine, donc c'est des matchs vraiment à regarder. Et puis les crampons qui sont à peine rangés, que les téléphones des agents ils vont déjà chauffer. On va entrer dans la période préférée des passionnés de rumeurs, le Mercato, en épluchant nos confrères de l'équipe et du foot Mercato ce matin. Deux gros dossiers qui agitent déjà l'Europe. Tout d'abord, on a en première ligue, on parle d'une offre colossale en préparation du côté du Manchester United pour s'offrir le meilleur buteur de Serie A. Les enchères qui commenceraient, à ce qui paraît, aux alentours de 90 millions d'euros, ce qui est rien que ça, bah, énorme. En France, les clubs de Ligue 1 qui cherchent surtout à dégraisser avant d'acheter, mais le RC Lens, le Stade Rennais, qui sont déjà très actifs sur le marché des jeunes talents, notamment au niveau du Sud-Américain. On le sait, avec la Coupe du Monde qui arrive aussi, beaucoup de joueurs veulent trouver un club où ils auront le temps de jeu garanti pour taper dans l'œil de leur sélectionneur. Ce mercato qui devrait être un véritable jeu de chaise musicale. On gardera un œil sur les infos RMC Sport et l'équipe pour vous tenir au courant. Mais avant de penser aux vacances, il y a bien évidemment le Graal absolu. Ce samedi, tous les yeux qui seront braqués sur la finale de la Ligue des Champions. Une affiche de rêve qui vient clôturer cette saison européenne. D'un côté, on a une équipe qui a roulé sur la compétition. Meilleure attaque d'Europe cette saison. De l'autre, des survivants, en quelque sorte, qui ont arraché leur qualif au tir au but en demi, prouvant qu'ils ont quand même un mental en acier trempé. Tactiquement, je pense que ça va se jouer quand même milieu de terrain. Les clés du match, ça va être la gestion de la pression, bien sûr, mais surtout cette capacité à gérer les transitions assez rapides. L'année dernière, on a vu que ce genre de match pouvait basculer sur une seule erreur de concentration. Et enfin, avant de se quitter, bah, impossible de ne pas parler de l'équipe de France. Dans un peu plus de deux semaines, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus qui sont actuellement rassemblés à Clairefontaine. Les premières images de l'entraînement montrent un groupe assez détendu quand même, mais très très concentré. Le Didier qui a mis donc l'accent sur beaucoup de récupération physique surtout, puisque bah, les saisons, on le sait, elles sont très longues et les organismes, ils sont fatigués. Le match de préparation prévu ce week-end sera le dernier grand test grandeur nature pour affiner le 11 de départ avant de s'envoler pour le continent américain. L'objectif, bien évidemment, est assez clair, accrocher cette troisième médaille au maillot français. Et puis, on se retrouvera juste après une pause musicale pour parler du reste de l'actualité sportive.
Crowd are just watching you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do.
Et on commence tout de suite par la catégorie reine du sport automobile, la Formule 1. Et quelle saison 2026 ce week-end, le paddock qui a posé ses valises en Amérique du Nord pour le Grand Prix du Canada. Et c'est donc George Russell qui a frappé fort au volant de sa Mercedes. Le Britannique qui a remporté une victoire magistrale, sa deuxième de la saison. Il a su résister à la pression des McLaren qui, on le sait, dernièrement accrochent les places du podium. Les deux McLaren qui mettent beaucoup de pression. On l'a vu notamment derrière la victoire du jeune prodige italien dernièrement, notamment celle de Lando Norris du coup qui avait quand même beaucoup brillé, notamment à Miami. Côté coulisses, ça chauffe aussi pour nos Français, Esteban Ocon qui pilote donc l'écurie Haas depuis l'an dernier, qui a dû donc monter au créneau pour démentir fermement cette rumeur concernant un énorme conflit interne avec son patron. Son avenir sur la grille qui n'est pas encore garanti pour l'année prochaine. On a intérêt de suivre ça de très près puisque ça annoncerait quand même pas mal de changements. On a aussi cette petite bombe dans le monde de la F1 d'après le président de la FIA. Les fameux moteurs V8 thermiques qui pourraient faire potentiellement leur grand retour au début de la prochaine décennie pour remplacer les motorisations hybrides actuelles qui sont assez souvent critiquées quand même malgré tout. Donc autant vous dire que les puristes en salivent déjà. Et puis on va rester sur l'asphalte, mais on va enlever deux roues pour parler du MotoGP. La grosse actualité du moment nous vient du constructeur KTM ces derniers mois. Les rumeurs qui allaient bon train sur une potentielle crise profonde en interne et une ouverture massive du capital pour survivre. Mais la marque a tapé du poing sur la table avec un message ultra clair. Nous voulons gagner, pas vendre notre âme. Ils refusent des millions pour préserver leur ADN. D'ailleurs, en parlant d'ADN, le championnat MotoGP qui continue sa mutation sous l'égide de Liberty Media, le groupe américain qui gère aussi notamment la Formule 1. L'objectif qui est clair, s'inspirer complètement du succès de la F1 tout en gardant cette essence quand même beaucoup plus sauvage de la moto. Et pour ce qui est de l'avenir de la discipline, ça avance très vite. Triumph, le fournisseur unique des moteurs de la catégorie Moto 2, prépare déjà le nouveau règlement 2027 avec cette obligation de rouler avec des carburants 100% d'origine non fossile. La future de la moto qui sera durable ne sera pas. Et puis on va quitter les sports mécaniques pour retrouver la petite reine. On est en fin de mai et qui dit mois de mai dit forcément le Giro, le Tour d'Italie 2026 qui bat son plein et on a le droit à des parcours historiques et épuisants, notamment donc plus de 49 000 mètres de dénivelé positif au total. Pour la toute première fois de son histoire, le départ de cette édition a été donné en Bulgarie, au bord de la mer Noire. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de la 15e étape. Le peloton qui s'attaque à un parcours nerveux de 113 km prochainement, qui vont faire piquer les Suisses avec les cuisses avec beaucoup de pente. La tension qui monte entre les favoris, puisqu'on s'approche dangereusement de la mythique 19e étape prévue ce vendredi qui sera en quelque sorte l'étape reine de ce Giro, pas moins de donc 5 cols à franchir avec notamment l'ascension du terrible Passo Gio à plus de 2200 mètres d'altitude. Autant dire qu'on a très hâte de voir les petits prodiges en vélo. Un petit mot rapide aussi sur le reste de la planète, les 4 jours de Dunkerque qui viennent de s'achever, superbe performance de Laurence Pitti qui remporte le classement général, tandis que le sprinter belge Jordi Meus a raflé la dernière étape. Et chez les femmes, on tire un grand coup de chapeau à Yara Castelinge, qui s'adjuge brillamment le tour de Burgos en Espagne. Yeah. on se retrouve tout de suite pour cette séquence sport inconnu. Oubliez tout ce que vous savez sur le saut à la perche classique ou le saut en longueur, même si je pense que pas mal de gens commencent à connaître cette discipline grâce notamment à Red Bull. Je vous emmène tout de suite donc aux Pays-Bas pour découvrir ce qui est probablement le sport le plus fou, le plus technique et le plus casse-gueule d'Europe, le Vierlijpen, littéralement en langue frisonne, ça veut dire donc le saut lointain. Le principe qui est très simple, sur le papier, traverser un canal rempli d'eau le plus loin possible à l'aide d'une perche géante. Sauf que, bah, bien évidemment, la moindre erreur de calcul se termine immédiatement par un plongeon magistral dans la vase. Alors, pour comprendre ce sport, il faut remonter un peu dans le temps et regarder les cartes, la carte des Pays-Bas. Là-bas, et particulièrement surtout dans la province de Frise, les terres agricoles qui sont quadrillées par des milliers de canaux de drainage. À l'époque, les fermiers néerlandais en avaient marre de faire des détours de plusieurs kilomètres pour trouver le moindre pont et aller s'occuper de leurs bêtes. Ils ont donc eu cette idée très pragmatique, utiliser de longues perches en bois pour bondir au-dessus de l'eau, tout simplement. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de transport paysan est devenu du coup au milieu du XXe siècle un sport extrême, officiel, avec ses règles, ses stades aquatiques, ses foules en délire. Alors, comment on fait un bon saut ? Eh bien, c'est une véritable lutte contre la gravité, puisque ça se passe donc en quatre étapes. Contrairement au saut à la perche traditionnel, l'athlète ne porte pas la perche en courant, elle est déjà plantée verticalement au milieu de l'eau. Première étape, l'athlète pique donc un sprint sur une petite piste de 30 mètres pour prendre un maximum de vitesse. Deuxième étape, la plus violente, il bondit au-dessus du vide pour s'agripper à la perche. Le choc qui est assez brutal puisqu'il doit encaisser la force de son propre élan, ce qui déclenche donc immédiatement la bascule de la perche vers l'avant. Troisième étape, et c'est là que ça devient un peu fou, pendant que la perche elle tombe lentement vers la rive opposée, l'athlète doit littéralement grimper au mât à la force des bras et des abdominaux pour atteindre le sommet et avoir le meilleur effet de levier, chercher beaucoup plus loin. Et puis enfin la sortie, donc juste avant que la perche elle touche l'eau, il se repousse avec les bras, s'éjecte en l'air et atterrit sur le dos dans du sable aménagé. Donc si, bien sûr, l'une de ces quatre étapes est ratée, la perche elle repart en arrière ou sur le côté, et puis donc c'est le bain assuré. Côté matériel, on est bien loin du bout de bois des fermiers d'autrefois. Aujourd'hui, on utilise des perches en fibre de carbone très rigides qui peuvent donc mesurer jusqu'à 13,25 m de long. Elles sont équipées donc d'une base plate pour éviter de s'enfoncer dans la vase au fond du canal. La pression mentale qui est très forte, puisque une fois le feu vert donné, l'athlète a donc 2 minutes et 15 secondes pour s'élancer, sinon son saut est annulé. Et puis si vous demandez jusqu'où on peut aller avec ces techniques, le record du monde masculin est de 22 mètres et 21 cm détenu par Jaco de Groot. Chez les femmes, c'est Marit van der Waal qui domine à un vol de 18 mètres et 19 cm, des distances assez grandes quand même. Aujourd'hui, le sport qui s'exporte au-delà du Pays-Bas, puisqu'on a des compétitions jusqu'aux États-Unis ou au Japon, et je pense que certains donc auront connu ce sport donc grâce aussi avec Red Bull qui a fait pas mal d'épreuves de compétitions sur ces sports, un peu comme aussi le mât avec du savon pour aller chercher un drapeau au bout. C'est deux disciplines qui ont été très connues dernièrement sur les réseaux. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéressera, que vous pourrez aussi essayer ce sport assez original qui nous vient tout droit du Pays-Bas. Et puis nous, on va continuer en musique sur Eiffel Radio.
Keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Now
Et allez, c'est le moment de sortir les agendas et de bien écouter et prendre vos billets de train déjà pour certains. Je vais vous parler des week-ends prochains. Rangez tout de suite vos outils de jardinage. N'oubliez ces repas de famille qui durent 7 heures puisque les 6-7 juin, c'est un week-end de sport absolument XXL qui nous attend. C'est le tout premier week-end de ce mois de juin et le programme est tout simplement royal. Au menu, on a de la terre battue de légende, des plaquages destructeurs, des sommets alpins à couper le souffle et surtout cette fièvre du football qui va commencer à grimper sérieusement. On commence bien évidemment par l'événement qui va braquer les projecteurs du monde entier sur la capitale, le dénouement de la quinzaine de Roland-Garros, 14 jours de sueur, de glissade millimétrée et de suspense, ou peut-être pas, sur la terre battue de la Porte d'Auteuil qui vont se résumer en 2 semaines de légende. Samedi après-midi, place à la grande finale dames. Qui soulèvera la mythique coupe Suzanne Lenglen cette année? Est-ce que la reine absolue de la surface va dicter sa loi une fois de plus? Ou va-t-on assister à un exploit historique d'une outsider? Le premier service qui sera frappé à 15h précise sur le Philippe Châtrier. Et puis le dimanche, c'est le clou du spectacle, la finale homme, pour succéder au monstre sacré du tennis, la bagarre qui s'annonce totale. Est-ce que l'année de la consécration ultime pour la nouvelle génération, ou alors un combat en 5-7 qui va nous emmener jusqu'au bout de la nuit? Un conseil, préparez-vous, installez-vous, tous les rafraîchissements pour ne rater aucune balle, puisque ça va cogner extrêmement fort du fond du court. Les deux finales qui seront donc à suivre en direct sur la télé. On va changer de ballon, on va passer maintenant à cette petite balle au gros cuir ovale, mais l'intensité qui est au maximum. On va rentrer dans les phases finales du top 14, la saison régulière qui est désormais derrière nous, les calculs de points qui sont terminés, et place au vertige brutal du terrain pour les équipes encore en lice. C'est le quitte ou double, soit le paradis, le ticket pour la suite de l'aventure, soit des vacances anticipées et les larmes dans les vestiaires. Attendez-vous à des stades pleins à craquer, des ambiances vraiment énormes, des matchs irrespirables. Puis bien sûr, impossible de ne pas parler de foot. Après ça, je pense que tout le monde est au courant, mais le compte à rebours est presque à zéro. Vous le savez, la Coupe du Monde débute donc le 11 juin prochain en Amérique du Nord. Donc ça va être le dernier week-end de repos avant cet enchaînement de matchs, de sueurs et de soutien de pays entiers. La plus grosse Coupe du Monde qui accueille le plus grand nombre d'équipes. Donc entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, l'équipe de France qui va jouer gros pour peaufiner ses automatismes, pas de calcul possible, il faut vraiment rassurer les supporters et faire le plein de confiance avant le grand frisson mondial. Et puis enfin, un mot pour les amoureux de la petite reine, gardez un œil sur les routes, puisque le critérium du Dauphiné vivra ses étapes de montagne décisive le week-end prochain. Les favoris du Tour de France qui vont s'expliquer en haute altitude sur les cols mythiques. C'est le premier vrai crash test pour les grimpeurs, un avant-goût du mois de juillet à ne surtout pas manquer. Donc voilà, vous savez tout pour vos prochains week-ends, vous avez de quoi vous occuper et vous n'aurez plus aucune excuse de dire que vous ne savez pas quoi regarder ou quoi écouter. Your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it. Et voilà, c'est déjà la fin de Sport 360. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce tour complet de l'actualité sportive, des grands rendez-vous à venir aux disciplines moins connues, mais tout aussi passionnantes. Et restez connectés, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, toujours au cœur de l'action, des résultats. Diffusion le lundi, jeudi et le dimanche de 7h à 8h. Et retrouvez-nous aussi en podcast sur Eiffel Radio.